Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, on continue nos analyses politiques pour 2022 et on revient sur la saga des influenceurs sur un aspect un peu plus psychologique. Bonjour à tous. Deux sujets aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui. Un peu de redondance dans le titre. On va discuter toujours politique 2022 avec des prédictions plus au niveau fédéral. Et on va revenir sur un aspect plus psychologique, sur la saga des influenceurs. Nos deux invités aujourd'hui sont Brian Breguet de Too Close to Call et Pierre Faubert, psychologue. Notre premier invité du jour, c'est Brian Breguet de Too Close to Call. Bonjour Brian.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Donc, on va discuter avec vous un peu dans le cadre de nos séries d'entrevues sur l'année 2022 au niveau politique, des prédictions qu'on pourrait se faire un peu pour, au niveau fédéral. On fera un peu un retour aussi au niveau des élections à venir pour l'Ontario et Québec, un petit retour rapide en fin d'entrevue. Donc, déjà, tout d'abord, au niveau fédéral, il y a un truc très intéressant, c'est la bisbille, ou plutôt, qu'est-ce qui se passe au Parti conservateur, Brian? Qu'est-ce qui se passe au Parti conservateur en ce moment? Ils sont en train un peu de s'effondrer.
Ils sont en train un peu de s'effondrer. C'était déjà le cas avant l'élection fédérale. Ils étaient remontés juste durant l'élection. Il y a vraiment un peu une crise interne. Il y a plusieurs partis de droite au Canada qui ont ce problème durant cette crise de la COVID, où vraiment c'est une coalition qui a un peu de la misère à rester en place. Parce qu'il y a vraiment deux groupes. Il y a ceux qui seraient un peu plus libertariens, qui, je crois, liberté individuelle, contre la vaccination obligatoire et tout. Et il y a les plus modérés, les centres, qui veulent plutôt avoir des mesures qui soient davantage comme le reste des autres partis. Et on voit comme un problème entre ces deux factions. Et il y a aussi le problème au parti fédéral en particulier. Il y a quand même une partie importante de la base qui n'est pas contente avec Erin O'Toole, notamment des résultats, du fait qu'il est carrément un peu trahi ce parti,
le recentrage qu'il a opéré pendant la campagne pour espérer faire des gains en Ontario au Québec, et finalement ça n'a absolument pas marché, au contraire ça a même tiré des électeurs vers le PPC, et on le voit avec la hausse des sondages du PPC.
Oui, non, c'est ça. Donc, ce genre de stratégie où vous vous présentez d'une manière à la course à la chefferie et vous faites un virement assez dur durant l'élection, ça marche si vous gagnez.
C'est ça.
Si vous gagnez, je pense que les gens vont vous pardonner. Mais si non seulement vous ne gagnez pas, mais vous perdez des sièges dans ces régions urbaines, c'est un peu difficile de justifier de vous garder comme chef.
Donc la question vient, comment on peut expliquer une telle chute en ce moment dans les intentions du Parti conservateur? Parce que souvent, même si la base va être en colère, ils vont quand même rester proches du parti. On a pu le voir depuis les années Harper, où cette base, malgré le fait qu'elle n'est pas contente avec le travail des chefs, que ce soit une base plus conservatrice religieuse ou une base plus atlantique, laurentienne, les deux restent quand même dans le parti. Mais là, on voit un effritement absolu des intentions de voix, une chute, et qui profite au Parti populaire du Canada, où ils augmentent dans les sondages, ils passent autour de 15%. Et on se dit, ils vont pas continuer à augmenter, ils vont pas continuer à augmenter. Ça fait 7 mois maintenant qu'ils continuent à augmenter.
Oui, non, c'est ça. Ça dépend aussi un peu des firmes de sondage. Mais de manière générale, les conservateurs sont effectivement en baisse par rapport à l'élection. Ils sont comme. Ça dépend aussi de la comparaison que l'on utilise. Si on compare aux résultats de l'élection, ils sont en baisse et le PPC est en hausse. Si on compare aux sondages à peu près toute l'année avant l'élection fédérale, les conservateurs étaient des fois encore plus faibles qu'actuellement. Donc vraiment, il y a vraiment ce groupe qui, durant l'élection, a décidé de se rallier, de se passer le nez et de voter conservateur pour essayer de bloquer Trudeau.
Mais là, ça suffit, en fait.
Et maintenant, surtout entre les élections, il n'y a aucune raison de rester chez les conservateurs, surtout avec le chef qui n'aime pas particulièrement. Et effectivement, c'est pas un effondrement, on les voit, à part dans certains sondages, mais de manière générale, il reste à quoi? 27, 28, 29%. C'est trop faible pour gagner, mais c'est pas un effondrement. C'est pas aussi problématique que, par exemple, l'été 2021.
Ils étaient extrêmement bas avant le début de la campagne.
Oui, c'est ça. Il y avait des moments où on se posait la question si le NPD allait les dépasser. Donc, c'était vraiment, ça aurait pu être catastrophique pour ce parti.
Ma dernière question avant de passer aux autres partis, c'est comment on peut justifier au niveau du Parti conservateur le fait qu'ils opèrent un état des lieux et une revue des capacités, des compétences d'Erin O'Toole en tant que chef en 2023? Parce que si cette chute continue de la sorte dans l'année, c'est là on va se poser la question de la vitalité et de la possibilité pour le gouvernement conservateur d'opérer et de peut-être proposer une solution viable d'opposition à Justin Trudeau. Donc comment justifier le fait d'attendre 2023?
C'est difficile, effectivement. Et on regarde, par exemple, les sondages ou la popularité d'Erin O'Toole dans les sondages à Bacchus. C'est horrible et ça continue. La tendance est mauvaise pour ce chef dans tous ces sondages. Si je devais trouver une justification, je pense que le caucus conservateur doit se dire si on fait une revue, une critique à l'heure actuelle de ce leadership, ça va être trop émotionnel.
Ouais.
Et on va peut-être faire une erreur, on va probablement se débarrasser de ce chef,
un peu trop
faire
vite.
Une nouvelle course. C'est trop rapide, on va se retrouver avec quelqu'un comme Leslie Lewis, qui a à peu près aucune chance de gagner une élection générale. Et dans les faits, un peu ironiquement, malgré un chef qui n'est pas particulièrement aimé, malgré des positions qui sont problématiques durant une crise comme cette crise de la COVID, si on regarde un peu plus à plus long terme, le Parti conservateur n'est pas dans une mauvaise position pour gagner 2024. Et il pourrait se retrouver dans une élection où il y a l'usure du pouvoir avec Trudeau. Et ils doivent se dire, bon, quand ça arrivera, quand les gens seront enfin tannés de ce gouvernement libéral et de Justin Trudeau.
Ils iront de l'autre côté.
Ben, c'est ça. Puis au moins, on a un chef qui sera déjà un peu connu. Je pense qu'à l'heure actuelle, vraiment, il pense au fait qu'il y a beaucoup, par exemple, de minorités visibles dans les régions de Vancouver et Toronto, où souvent, c'est pas une question tant de politique publique ou d'enjeu. C'est une question de est-ce qu'on connaît la personne.
C'est
ça. Et ils doivent se dire, si on change de chef encore une fois, on n'aura pas le temps de le faire connaître et on va perdre en 2024. Donc, on garde le chef qu'on n'aime pas particulièrement, mais qui n'est pas horrible non plus. Il n'est pas détesté, il n'a pas d'énormes problèmes d'enjeux ou de politique publique. Et la prochaine fois, il est davantage connu et on peut gagner peut-être au moins une minorité. Et voilà quoi.
Il y a une question qui me vient à l'esprit avec un mot que vous avez pu prononcer, c'est le mot usure. On voit Justin Trudeau, directement après sa réélection, connaître un peu les problèmes de l'usure du pouvoir, une sorte d'usure immédiate en pleine réélection. Est-ce que ça peut être un problème à long terme pour le Parti libéral? Mais surtout, on sait qu'il va rester et qu'il a envie de rester pour la prochaine élection, mais ça risque d'être problématique parce que les libéraux aussi, je suis un peu dans le sondage, restent quand même très stables, autour de 30-31%. Mais là, il y a un sondage, je crois que c'était Angus Reid ou autre, qui avait fait pour le Québec, où on voit que le Bloc est repassé au-dessus des 35%, par exemple, pour le Québec. 35% pour le Québec, pour le Bloc, c'est une ligne où il passe en majoritaire en nombre de sièges par rapport à comment le système de votation est fait au Canada. Et c'est surtout aussi une ligne pour les libéraux, où ils sont minoritaires, mais minoritaires avec la balance du pouvoir, mais c'est aussi quelque chose qui les met fragiles face à une possible montée forte des partis d'opposition.
Oui, non, c'est ça. Les libéraux et Trudeau en particulier sont dans une position un petit peu spéciale dans
c'est
le
ça.
Sens que ils ont une coalition solide. Et Trudeau, malgré l'usure du pouvoir, continue quand même d'être populaire avec un groupe en particulier d'électeurs.
Avec son caucus, moi aussi.
C'est ça, donc caucus et les électeurs urbains, progressistes, ils continuent quand même de l'aimer et de le préférer à l'alternative. Mais effectivement, on peut voir et si on regarde à long terme, on voit une usure déjà, on voit une baisse. Et si ce n'était pour la crise de la COVID, je pense que les libéraux seraient déjà probablement au-dessus des 30% de manière systématique. Ils ont obtenu ce boost, cette petite hausse, cette hausse massive il y a 18 mois qui s'est atténuée et qui était juste pas suffisante pour gagner une majorité. Donc c'est difficile vraiment à dire ce qu'ils peuvent espérer. On voit difficilement comment il pourrait gagner une majorité la prochaine fois avec le même chef, le premier ministre actuel. Parce qu'effectivement, où ils vont gagner leur siège, ils ne pouvaient pas les gagner en 2019, et en particulier en septembre passé. D'un autre côté, changer de chef signifie prendre des risques, en particulier au Québec, s'ils se retrouvent avec un chef qui n'est pas francophone.
C'est ça.
Donc c'est difficile. Est-ce qu'ils sont contents de gagner ces larges minorités en ayant ces groupes urbains, ce bloc
avec
de voteurs urbains?
Avec un NPD qui va être présent pour voter des lois plus progressistes et donc ils seront tranquilles d'avoir une sorte d'opposition qui peut être un bon complément à leur part du pouvoir.
Oui, c'est ça. Et c'est pas difficile pour eux de passer leur loi. Ça l'était pas en 2019, pour être honnête. Ils n'avaient pas besoin de déclencher une élection l'année passée. Ils voulaient avoir cette majorité. La seule question que je me pose vraiment là, par rapport à la prochaine élection, en disant 2024, c'est plutôt est-ce que Trudeau lui-même est un peu fatigué.
C'est ça.
Est-ce que parce qu'il voulait une majorité de toute évidence. Il n'aime pas ce gouvernement, ce parlement minoritaire où il ne contrôle pas les comités et tout. Et je me pose la question, est-ce qu'il veut vraiment? Je sais qu'il a déclaré vouloir être présent lors de la prochaine élection, mais je me pose la question si c'est vraiment le cas aussi. Il va juste se dire, je vois pas ce que je peux faire davantage et j'en ai un petit peu marre. Il est quand même député depuis quoi? Depuis 2008.
C'est
maintenant,
ça. Oui, donc, 2024, on approchera des 16 ans.
Ouais, c'est ça. Et après 9 ans de pouvoir, à un moment donné, il doit quand même se dire qu'il a peut-être autre chose à faire.
Est-ce que vous pensez ça, surtout par exemple au niveau de l'image? On voit énormément Chrystia Freeland, par exemple, en ce moment, et on sait que Chrystia Freeland est un peu la favorite pour succéder à Trudeau, donc on essaye de l'intégrer encore plus. On voit Madame Freeland aussi beaucoup plus parler en français lors des prises de position qu'en anglais, ce qui permet aussi de l'intégrer un peu plus dans l'image politique québécoise et francophone au Canada, donc c'est un peu la préparer pour la suite.
Oui, effectivement. Et il y a beaucoup d'autres gros noms qui étaient au cabinet depuis 2015, quand ils ont gagné, quand ils sont revenus au pouvoir, qui ne sont plus là. Et il n'y a pas vraiment eu de relève. Il y a vraiment une baisse un petit peu de qualité de ce caucus au fil des ans. Et il reste à peu près que Chrystia Freeland, qui est vraiment le choix naturel. Il y a 2 ans, on pensait que Marc Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, allait se présenter, mais de toute évidence, il n'était pas si intéressé. Et c'est un peu difficile de voir devenir chef en n'ayant jamais été député avant. Donc effectivement, il y a juste Freeland, il la prépare vraiment pour être la successeur. Et je crois que vous avez totalement raison, le fait qu'elle parle davantage en français n'est pas anodin, parce qu'effectivement, le gros risque de changer de chef serait, est-ce qu'ils conservent leurs appuis très solides au Québec? Ou est-ce qu'ils retournent, on l'oublie parfois, mais avant 2015, les libéraux ont quand même vécu une décennie au Québec à ne rien gagner à part de l'ouest de l'île.
Dernière petite question pour terminer l'entrevue, on va revenir un peu sur des petites prédictions provinciales, mais est-ce que le morcellement politique des oppositions en Ontario et Québec, en gros, même si on a une chute de l'opinion par rapport au gouvernement Ford et Legault, une petite chute, ça les sauve en fait et ça même leur permet politiquement de pouvoir être présents au pouvoir au long terme?
Oui, non, absolument. Les deux provinces ont à peu près le même phénomène. Je crois que le phénomène de morcellement, le morcellement est davantage au Québec où on a vraiment maintenant quoi, 3, 4, 5 partis d'opposition.
Qui sont limités à 20 maximum.
Ouais, c'est ça, 10 et 20. Mais au moins, ces partis sont très différents et c'est difficile de les voir s'entendre entre eux. Je crois que l'Ontario est un exemple un peu plus flagrant vraiment de division du vote, où il y a ce groupe entre le NPD, les libéraux, qui s'entendent à peu près. Ils s'entendent 90% du temps. Et ils sont en train de se séparer parfaitement pour permettre à Doug Ford et au Parti conservateur de gagner une réélection très surprenante.
Au lieu de se faire un contrat de gouvernement ou de coalition qui pourrait faciliter le délogage de Doug Ford, ils préfèrent continuer à s'opposer, ce qui facilite cette réélection.
Oui, c'est ça. Et j'ai jamais compris. J'ai toujours pensé au Canada, par exemple, ou des accords d'entente avant l'élection, où ils pourraient essayer de retirer des candidats mutuellement dans certains comtés. Je sais qu'au Québec, le Québec solidaire et le Parti québécois avaient commencé des discussions il y a quelques années. Je sais, vu que j'avais fait partie de ce groupe qui regardait, il m'avait posé des questions et d'analyser si ça pouvait marcher. Quelqu'un comme Amir Kadir était très en faveur de ce genre d'entente, mais maintenant, la nouvelle garde à Québec solidaire ne veut pas le faire. Mais en Ontario, ça ferait beaucoup de sens que ces deux partis retirent. Ils n'ont pas besoin de retirer beaucoup, mais peut-être juste 5-10 candidats mutuellement. Et ça pourrait au moins permettre au mode de scrutin de ne pas donner une situation absurde, où on voit le sondage de hier où les conservateurs gagneraient probablement une large minorité, alors que c'est à peu près 75% de la population qui dit qu'il est temps de changer de gouvernement.
C'est ça.
Donc ça n'a pas beaucoup de sens.
Totalement. Merci beaucoup, Marianne Brigade, d'avoir répondu à mes questions. C'était toujours un plaisir, comme d'habitude. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous gérez aussi le site Too Close to Call, où vous venez nous apporter des éclairages assez hallucinants et incroyables à propos des sondages et de la vie politique au Canada. Merci beaucoup, Brian.
Merci beaucoup, toujours un plaisir.
Merci, toujours un plaisir aussi. Notre deuxième invité de la journée, c'est Pierre Faubert, psychologue. Bonjour Monsieur Faubert.
Oui, bonjour.
Oui, avec vous, on va discuter de la saga des influenceurs. Vous vous souvenez très bien de tout ce qui a pu se passer pendant le temps des fêtes, le Québec qui retourne en couvre-feu et on se prend d'amusement pour une gang de jeunes un peu insouciants qui décident de faire la fête dans un avion et à Tulum au Mexique, quitte à ne pas respecter les consignes sanitaires. Mais on en a très peu parlé sur un aspect psychologique. Donc, on est revenu un peu sur cet aspect de est-ce que ça va nuire à la profession des influenceurs, mais l'aspect psychologique, c'est pourquoi une telle influence pour ce groupe de personnes? Bah tiens, on va commencer par cette question, Monsieur Faubert. Pourquoi une telle influence pour ce groupe de personnes?
Pourquoi une telle influence pour ce groupe de personnes?
Oui,
pourquoi est-ce que ce groupe a une telle influence?
A une telle influence. Pourquoi ce genre de personnes, les influenceurs, ont une telle influence dans la société actuelle, auprès des jeunes actuellement?
Oui, je crois qu'il faut aller à l'étymologie du mot influence. Et le mot influence vient de deux mots, un préfixe in, qui veut dire de là, et fluere, qui veut dire fluide ou quelque chose qui coule, hein, comme une rivière. Bon. Alors, c'est aussi un mot qui a été associé à quelque chose qui est astral, comme ça venait d'ailleurs.
Donc,
une influence qui vient d'ailleurs, et c'est intéressant que ça se passe dans un avion, parce que c'est entre le ciel et la terre.
C'est ça.
Mais ça rejoint tout à fait le sens du mot. Mais en fait, pourquoi est-ce que ces gens ont tant d'influence sur nous? Mais en fait, ça veut dire qu'ils ont une vie qui n'est pas la même que la nôtre.
C'est ça.
Et c'est-à-dire qu'ils ont une vie qui, apparemment, est beaucoup plus près de la vie qu'on idéalise. La vie, d'ailleurs, on dit la vie des étoiles, la vie des stars, la vie des vedettes. Et donc, de ces personnes qui sont hors du commun, mais un peu comme lorsque on fait appel à des...
Une vie captivante qui nous donne envie de regarder au-delà.
On fait la même chose pour les athlètes olympiques qui gagnent une médaille d'or, et puis les comédiennes et les comédiens qui vont gagner des Oscars. Bon, toutes les personnes qui sont hors normes. La plupart du temps, on le voit à cause des médias, on peut les voir, on peut même communiquer avec elles et ces personnes. Et donc, il y a par association et vicarialement une vie par et à travers ces personnes-là.
D'accord.
Alors donc, il y a une quête de sens. Les êtres humains sont toujours en quête de sens. Et sens, c'est direction. Et d'ailleurs, on dit que l'influence, c'est l'effet sur la destinée de quelqu'un. Donc, c'est notre destin, c'est notre avenir. Et évidemment, pourquoi est-ce que les gens vont consulter des astrologues ou
une sorte de guide pour pouvoir atteindre ce but ultime qu'est les étoiles? On souhaite quitter un peu la situation terrestre pour aller un peu dans les étoiles. Donc là, on souhaite, dans une sorte de phénomène de mimétisme, pouvoir atteindre ce succès que ces gens ont pu atteindre, non?
Oui, au moins, en tout cas, au moins dans l'idée.
Dans l'idée.
Dans notre imaginaire.
Néanmoins, à propos de ces personnes, les influenceurs, il y a ces influenceurs des médias sociaux et autres choses, il y a quelque chose que je considère un peu comme différent, j'aimerais un peu avoir votre analyse sur ça, c'est que ces gens sont souvent en fait des porte-noms pour des marques. Donc ils accèdent à une sorte de célébrité grâce à des marques qui les utilisent comme un véhicule publicitaire. Et si ces marques décident de se débarrasser ou de changer de véhicule, ils ne sont plus rien. Donc c'est une sorte de vie par coutumasse qui est très fragile. Donc pourquoi les gens... certains jeunes et ces influencés décident d'être guidés par ces gens qui, ils le savent aussi, je pense, pourraient du jour au lendemain ne plus être des guides, mais de redevenir des guidés, en fait.
Oui, mais vous voyez, c'est là que ces gens-là, qui peuvent être éphémères, rejoignent nos vies. Au sens, ce sont des humains aussi. Autrement dit, on peut s'identifier à la dimension possibilité d'échec. Et donc, ça les rend encore plus humains.
Okay.
Mais les marques s'adressent, on pense à Nike ou à d'autres marques comme ça, s'adressent à ces gens-là parce que ils ont une place dans les médias sociaux. Mmh. Autrement dit, le nombre de likes et puis la quantité de followers, mmh. les gens qui les disciples, en fait, hein, c'est un peu comme ça. C'est pratiquement comme si chacune ou chacun de ces influenceurs devenait comme un gourou.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, les humains, c'est très paradoxal parce que nous, en tant qu'humains, on veut être libres. Mais en même temps, on est angoissé devant la liberté.
Est-ce que c'est, en fait, façon de parler, parce qu'au fond, on se dit humain, on a le contrat social qui nous permet de vivre en société, mais de l'autre côté, on est quand même encore assez mammifère sur beaucoup d'aspects de notre comportement. Est-ce qu'on peut relier ça au phénomène de meute et de soumission qu'on retrouve chez la plupart de tous les mammifères?
Oui, exactement. Donc, si je m'identifie à tel ou tel influenceur ou influenceuse, et puis que je sais qu'il y en a d'autres, eh bien, je fais partie de ce groupe. Et peu importe, même s'il y en a des centaines de milliers ou des millions, eh bien, c'est quand même un groupe select. Hein, les gens qui s'associent à Kardashian, eh bien, ces gens-là, ils disent, oh, ben, je suis aussi important, en tout cas, comme je disais au début, vicariellement, je fais partie d'un groupe select. Et surtout, si je reçois des messages de ces gens-là, si ces messages-là sont envoyés à large, comme on dit en général, mais je fais partie, hein, je peux montrer, et ça aussi c'est un autre aspect, je peux montrer à mes pairs sur les gens qui sont du commun, je dis ça comme ça, sans méchanceté, mais donc les communs, eux, ils sont comme tout le monde, mais moi je suis exceptionnel, parce que je suis associé à telle ou telle personne.
Donc à partir de là, du fait de cette association, il est normal pour une personne, surtout parce que cette personne donc, est une étoile, donc on se dit, on va pouvoir abandonner notre vie terrestre pour devenir un peu plus grand, s'il est normal d'abandonner le moi pour le toi, afin de se permettre de s'élever.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, vous êtes en train de citer Martin Buber. Oui. Hein, Martin Buber qui a écrit ce fameux livre « Je et tu ». Et donc, c'est vrai, nous actualisons en tant que « je » lorsque nous sommes en relation avec un autre « je » qui devient un « tu » pour moi. Et je suis un « tu » pour l'autre. Et oui, mais la communion n'est possible que si je suis différent de l'autre, mais en même temps, dans un état de communion, c'est-à-dire qu'il y a une résonance. Alors, si je m'identifie avec une personne influenceuse, eh bien, donc, à ce moment-là, moi, je suis en résonance avec cette personne-là. Et j'espère, en tout cas, actualiser quelque chose en moi qui est éminemment spécifique à moi. Et ça fait partie de ce que Carl Jung appelle le processus d'individuation. Nous sommes tous en individuation. Ça veut dire ne pas être divisé. Individu, ça veut dire ne pas être divisé.
OK. Et l'autre question qui me vient à l'esprit, surtout avec ce que vous venez de dire, c'est que ne pas être divisé, donc ça veut dire un peu aussi une recherche d'uniformisation, de maintien des liens, est-ce que ce genre d'uniformisation, de maintien des liens peut avoir quand même des effets pervers, surtout sur le maintien du contrat social? Parce qu'on le voit, par exemple, qu'une uniformisation des codes, souvent à outrance, provoquée par ce genre de choses, détruit, par exemple, la créativité, détruit l'individualisme dans le sens de, il y a le nous, il y a l'ensemble, la communauté, mais il faut que le je puisse être maintenu quand même dans le nous, sorte d'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs, donc entre l'identité individuelle et l'identité collective, mais ce genre de choses cette uniformisation peut aussi la détruire et créer des effets pervers. Donc est-ce que ce phénomène d'influenceur amène ces effets pervers-là?
Dans ce que vous dites, par rapport à l'uniformisation, vous avez raison, mais ce que nous voulons, c'est d'être unique. Et parce que lorsque nous sommes tous ou toutes en uniforme, enfin nous ressemblons tous. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des uniformes pour des institutions comme l'armée, certaines écoles, etc. Bon, alors donc, ce que nous voulons surtout, c'est d'être unique, pas uniforme. Et c'est là le paradoxe, c'est que en faisant partie de la meute, comme vous dites, eh bien, je perds ma spécificité, mon identité, mon jeu, je viens un nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est que l'être humain, étant donné sa fragilité, a besoin de se sentir appuyé et donc solidaire de d'autres qui, si jamais je suis dans un problème, une difficulté, eh bien, j'aurai de l'aide. J'aurai
le phénomène de cours.
Ben oui, qui viendra aussi à mon secours, exactement. Alors donc, il y a ça, mais c'est un prix à payer. Le prix à payer d'être dans la meute, c'est de perdre en quelque sorte son identité, sauf que même à l'intérieur de la meute, on sait qu'il y a des personnes qui ressortent. Alors, il y aura toujours des individus, qui vont ressortir du lot et qui auront des influences sur les gens qui sont déjà influencés.
Pendant la dernière minute de cette entrevue, une question rapide, c'est un peu une analyse sur ce qui... Donc, pourquoi il y a eu une telle réaction, une telle excitation pendant le temps des fêtes? On sait que le Québec se sentait un peu triste, le retour du confinement et autre chose. Oui, mais pourquoi, malgré cela, on s'est capté pour une histoire qui, en temps normal, devrait quand même être considérée comme banale, voire loufoque?
Je ne suis pas si sûr que ça avait été... banalisé à ce point-là. Je pense que le fait d'être prise en flagrant délit, il y a toujours quelque chose d'excitant là-dedans.
C'est ça.
Et il y a peut-être même de façon secrète à l'intérieur de chacun de nous peut-être une certaine envie.
Un voyeurisme.
Ben, c'est ça. Ouais. Mais aussi, comme on dirait, ils ont du fun, eux autres. Moi, j'aimerais savoir du fun comme ça. Ouais. Même si ils sont en train de briser toutes les règles du vol en avion et puis des respects des
règles sanitaires.
Tout ça. Ben oui, mais en même temps, ça, c'est des gens qui disent, excusez l'expression, là, mais je pense que c'est acceptable. Fuck you. Ils disent fuck you à tout le monde. Et donc, il y a peu de gens qui peuvent se permettre ou qui croient se permettre de dire ben, fuck you à tout le monde.
C'est ça.
Alors, c'est un peu ça que ces gens le disent. Et ça, pour beaucoup, c'est il y a une certaine admiration pour ça, même si on n'oserait pas le faire soi-même.
Façon de parler, excusez-moi maintenant de dire cette expression, ils ont des couilles, j'aimerais en avoir autant que...
Exactement.
Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Faubert, d'avoir répondu à une question. C'était une entrevue très intéressante. Merci beaucoup et vous êtes toujours le bienvenu sur Radio VM.
Oui, mais je n'attends que votre invitation et ça me fera plaisir de récidiver.
Merci beaucoup, passez une très belle journée.
À vous aussi.
Merci à tous d'avoir été à notre écoute. Daniel Fortin à la réalisation comme d'habitude avec ses doigts très affûtés. Julien Corona pour la présentation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.